Salut, c'est Yann pour l'émission Crème de la Crème. On est ensemble pendant une heure, comme tous les jours, du lundi au vendredi, 18h, 19h. Rediffusion du mardi au samedi matin, de 9h à 10h. Playlist et réécoute sur canalb.fr. Une émission qui sera peut-être très bavarde aujourd'hui, mais je vous conseille de rester des nôtres pour tout savoir sur les envolées de la paillette. C'est un festival de pratiques artistiques en amateur. On parlera surtout théâtre avec nos deux invités tout à l'heure, Aude Chalmel du Rosier, programmatrice ado adulte et à la coordination des pratiques amateurs, et puis aussi Bérangère Lebac, qui est intervenante d'un atelier théâtre et qui fait partie de la compagnie Lumière d'Août. On parlera aussi cinéma et de tout Fassbinder avec Jules Topoc, animateur Canal B que vous retrouvez le mercredi dans l'émission Trop Beaucoup. Il a passé peut-être trop beaucoup de temps à regarder toute la production de Rainer Werner Fassbinder et vous propose une sortie de résidence ce jeudi 25 avril à l'Hôtel Pasteur. On en parlera tout à l'heure, mais on commence directement avec Benny et l'excellent album One Million Love Songs. Belle façon de rompre avec un de ses amours, c'est ce qu'elle raconte dans cette chanson Good Stuff, la chanteuse leader du groupe de Chicago, Jessica Vicious. On écoute un extrait donc de ce nouveau disque d'or dans Crème de la Crème cette semaine, sorti le 5 avril pour Firetalk Records. Bonne émission. To feel sport. Il en sera un peu question dans la page culture de Crème de la Crème dans un instant à propos des envolées de la paillette. Mais là, vous entendiez Sports par les fantastiques Viagra Boys. C'était sur leur premier album Street Worms, sorti en 2018. C'est pas la date de début. Ils ont commencé en 2015. On sorti quelques singles. Mais c'est vraiment ce morceau Sports, peut-être, qui a vraiment déclenché les choses pour eux lorsqu'il était apparu sur une compilation du magasin Rough Trade notamment. Vous retrouvez toujours l'excellence de Viagra Boys avec son leader déjanté Sebastian Murphy. À suivre, les envolées de la paillette. Dans la page culture de Crème de la Crème, aujourd'hui, on va évoquer un événement qui a commencé il y a bien longtemps, puisque c'est la 42e édition des Envolées. C'est des ateliers de pratique amateurs, mais pas seulement dans le théâtre, ça se passe à la paillette. Mais la paillette, c'est pas que du théâtre, c'est aussi des arts plastiques, c'est de la musique, c'est de la danse, et j'en passe. Il y aura même un peu de sport cette année, j'ai l'impression. Bon, on va bien voir, on va en parler de ces Envolées 2024. Ça a déjà commencé le week-end dernier avec un programme des étudiants qui s'envolaient. J'espère qu'ils sont revenus parmi nous et qui va se poursuivre ce programme des envolées jusqu'à la fin du mois de juin. On va en parler avec Aude Chalmel-Durosier. Bonjour Aude.
Bonjour.
Programmatrice ado-adulte et à la coordination des pratiques amateurs. Donc la meilleure placée pour nous en parler de ces envolées.
C'est ça.
Et accompagnée de Bérangère Lebacle. Bonjour.
Bonjour.
De la compagnie Lumière d'Août, qu'on connaît pas mal à Rennes et sur Canal B, et qui intervient dans un atelier théâtre. Il y en a de très nombreux, des ateliers théâtre. C'est surtout de ça qu'on va parler, du théâtre, peut-être aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a autant de tranches d'âge différentes, déjà pour les jeunes apprentis comédiens, comédiennes? Parce que j'ai vu qu'il y a un atelier ado 11-12 ans, 13-14, 15-16 ans, 16-17, 17-18... Pourquoi est-ce qu'on segmente autant, finalement ?
Parce qu'on a beaucoup de passionnés et on a beaucoup de jeunes qui ont envie de faire du théâtre. Donc, pour pouvoir permettre à chacun et chacune de s'inscrire et de participer et de s'exprimer sur un plateau, on réduit le nombre de... l'âge, comme ça, ça augmente le nombre d'ateliers possibles.
Mais pour autant, on peut commencer dès l'âge de 6 ans avec l'atelier Ludothéâtre. Ceux qui commencent, les jeunes comédiens, comédiennes qui commencent dès l'âge de 6 ans, est-ce qu'il y en a certains qui vont rester pendant toute leur jeunesse, adolescence et puis début d'âge adulte aux ateliers ?
Oui. On en a de nombreux d'ailleurs qui font tout un parcours à la paillette, qui démarrent à l'âge de 6 ans avec Estelle et puis après qui passent les tranches d'âge, puis après qui deviennent étudiants et qui font partie des étudiants s'envolent, qui se sont envolés le week-end dernier, et puis qui rejoignent aussi les ateliers adultes.
Est-ce que certains, au bout du compte, rejoignent des compagnies établies comme Lumière d'Août, par exemple ?
Moi, j'en retrouve en atelier, ou même dans le parcours Brechini, dans lequel moi j'interviens, puis au conservatoire, non, il y en a plusieurs qui continuent.
On a même des anciens adhérents qui sont devenus intervenants, intervenantes.
Oui, c'est vrai, Delphine.
C'est le cas de Delphine Batour, qui est intervenante depuis trois ans maintenant à La Paillette, et qui était en atelier théâtre avant à La Paillette.
Des ateliers de pratique amateurs en théâtre, il n'y en a pas que à La Paillette, qui ont lieu à Rennes, j'imagine. Est-ce que c'est la plus grosse structure en la matière dans la région, et à Rennes en tout cas ?
Je pense qu'on est la structure qui propose le plus d'ateliers par semaine. Après, il y a d'autres structures qui proposent plein de choses super. Mais oui, on a un gros focus théâtre à La Paillette.
Je l'ai dit, c'est pas seulement du théâtre. Les Envolées, c'est des pièces de théâtre, d'accord. Des spectacles de danse, des concerts. Il n'y en a pas cette année, il me semble. Et puis, une exposition collective. Celle-là, elle aura bien lieu.
Oui, l'exposition collective a bien lieu. Elle démarre le 5 juin, tout au long du mois de juin. Et en fait, c'est les ateliers d'art plastique qui exposent une partie de leurs travaux de toute l'année. Donc, c'est un condensé de tout ce qui s'est passé pendant l'année dans la galerie du lavoir de La Paillette.
Comment ça se passe, Aude, cette coordination des pratiques amateurs ? Est-ce que ceux qui ne sont pas dans, ou celles qui ne sont pas dans les ateliers théâtre se disent « ça prend trop de place par rapport à nos ateliers à nous ?» Non, tout se passe en harmonie ?
Non, tout se passe en harmonie, tout va bien. L'idée des ateliers, c'est que chacun, chacune puisse présenter son travail de l'année en fin d'année. Donc les ateliers d'art plastique, c'est lors de cette, exposition. Pardon. Et puis la danse, il y a un week-end qui est consacré à la danse où tous les ateliers danse passent sur le plateau et montrent leur chorégraphie qu'ils ont travaillée pendant l'année. Et puis les ateliers théâtre passent tous aussi sur le plateau. Quelque part, il n'y a que la musique, où on est plutôt en pratique individuelle à la paillette, qui ne font pas de démonstration publique, mais ils font un petit concert entre eux, et puis c'est l'occasion d'inviter les parents, les familles, voilà. Mais il n'y a pas de programmation à proprement parler.
Tout le programme de ces envolées, ces 29 spectacles sur 5 week-ends, vous irez le découvrir hein, sur le site de la paillette, ça sera beaucoup plus simple. Il y a une plaquette qui a été éditée aussi, c'est sur la-paillette.net, je mettrai le lien bien sûr sur la page de Crème de la Crème sur canalb.fr. On va s'intéresser peut-être à un atelier en particulier, tiens, pourquoi pas celui au hasard, vraiment pas au hasard, que mène Bérangère Lebâcle de la compagnie Lumière d'Août, je le rappelle. C'est adressé à quelle tranche d'âge celui-ci ?
Alors, dans cet atelier, ce sont des adultes. Au départ, c'est un atelier débutant, mais en fait, bon, ils sont quand même débutants plus. Enfin, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Et c'est vrai que moi, j'aime bien mélanger les niveaux. Ça s'adresse à des adultes, mais étudiants aussi. Si, sauf que comme à la paillette, il y a un atelier étudiant. Voilà, ça peut commencer en tout cas, et il n'y a pas de limite d'âge. Et c'est, voilà, tous les ans, ils changent. Enfin, on essaye, sauf qu'en fait, souvent, on retrouve un peu les mêmes. Donc, on verra pour l'année prochaine.
Il y en a certains qui restent dans débutants et qui n'arrivent pas l'année suivante à confirmer.
Ouais, c'est ça. En fait, on a des niveaux, essentiellement pour les ateliers théâtre débutants. L'idée, c'est que des personnes qui n'ont jamais fait pratiquer le théâtre puissent être à l'aise et démarrer quelque part. Et puis après, c'est vrai que la question des niveaux, ou en tout cas du nombre d'années de théâtre, parce que ce n'est pas une question de niveau avec des auditions, évolue et se casse. Voilà, la fidélité à un intervenant prend le dessus sur le nombre d'années de théâtre.
Mmh, et puis la construction du collectif, en fait. Enfin, le temps que ça se fasse, c'est assez chouette. Après, souvent, au bout de 3-4 ans, les équipes changent, mais c'est assez. Enfin, c'est chouette qu'ils se retrouvent sur un plateau. Ça permet quand même de prendre confiance et d'aller plus loin d'une année sur l'autre, en fait.
On va revenir au début de cette année, finalement. Ça a commencé quand l'encadrement de ce groupe actuel ?
En septembre. La rentrée se fait en septembre et souvent on joue entre mai et juin. Donc on a, on va dire, une trentaine d'ateliers. Enfin, c'est 26 ateliers à l'année plus des week-ends. Donc c'est vraiment tous les... Enfin, nous, c'est tous les lundis, de 18h30 à 20h30, 2h. Et ensuite, on se retrouve sur 2 week-ends où au milieu d'année et en fin d'année, pour pouvoir faire une générale, voir où on en est, avancer. Et après, on joue, on a une générale en lumière, avec un régisseur qui est Mathias et d'autres intermittents. Donc il y a une vraie créa lumière, le plateau, et on y va. Et nous, cette année, on va jouer en prison, en plus, à la prison de Vezin-le-Coquet.
Oui, ça ne sera pas une représentation qui sera ouverte à tout public.
À la prison ?
Ah non, non, forcément.
Non, non, ça va être forcément vraiment pour les détenus.
Bérangère, quand on mène, on anime un atelier théâtre comme ça, on ne se limite pas, j'imagine, à lire le texte, à le dire, à l'apprendre et à le faire jouer le mieux possible. Il y a aussi quelques cours, j'imagine, de techniques théâtrales pures ou pas ?
Alors, il y en a, moi j'appelle ça des expérimentations qu'on fait en début d'année. Alors, cette année, c'est particulier, et ce sera ça maintenant, c'est qu'il y a un thème. Donc, cette année, c'était le sport à tout prix. Donc, effectivement, nous, en amont, les intervenants et les artistes, on cherche des textes en lien avec le sujet. Et après, moi, je travaille comme ça, j'aime bien amener plusieurs textes que je fais rencontrer au groupe. Donc on part comme ça en exploration, on les lit, on tente des choses. Et effectivement, ça passe par... Enfin, moi, je bosse beaucoup en musique, beaucoup avec le corps, le chant. J'aime bien tester des choses. Et une fois que tout le groupe s'est dit, tiens, c'est ce texte-là sur lequel on a envie de partir, on y va. Mais c'est vrai qu'il y a tout... On l'a choisi en novembre. On a acté ça, non, décembre même.
Et ce texte-là, c'est Le principe d'Archimède ?
Le principe d'Archimède, de Aude.
Joseph Maria Miro.
Qui est, il est particulier, enfin, moi je le trouve très chouette, et tout le groupe en tout cas s'est dit, au-delà de parler du sport, il a surtout un propos assez politique et épineux, mais dont on avait envie de parler, puisque ça se passe dans un vestiaire de piscine. C'est un huis clos, donc pour une fois, c'est vrai que moi, j'aime bien qu'on fasse beaucoup de collectifs sur le plateau. Donc le collectif sera là, mais d'habitude, il n'y a pas que trois personnages. Là, il se trouve qu'ils sont quatre en huis clos. Et en fait, dans ce vestiaire de piscine, un des moniteurs est en tout cas accusé par une petite fille d'avoir embrassé un autre petit garçon. Et de là, en fait, on remonte la rumeur, la rumeur grossit et on essaie de décortiquer en fait tout ce qui s'est passé. Donc on remonte sur le avant, le après. Et ce qui est assez beau dans cette pièce, c'est que le spectateur, nous, ce qu'on veut, c'est le faire réfléchir à comment les choses en fait grossissent ou pas, comment la parole, en fait, la manière de dire les choses, des fois, des circonstances font que on ne saura pas ce qui s'est vraiment passé, enfin comment on réfléchit. Donc on a essayé de monter ça et de travailler au plus près, enfin en tout cas après moi j'aime bien ça, l'idée qu'on se parle vraiment, qu'on soit très sincère en fait pour pas juger notre personnage et pour que justement le spectateur non plus en fait qu'il réfléchisse, que tout soit pas donné en fait, que tout soit pas plié dès le début, puisque l'auteur fait en sorte qu'on ne sache pas de toute façon ce qui s'est passé, il veut juste nous amener à réfléchir.
Ce principe d'Archimède, il ne sera pas joué seulement à la prison de Vezin ?
Ah non, il sera joué aux Envolées. Ça, c'est la première le 31 mai à 21h sur le Grand Plateau. Et ensuite, à la prison de Vezin le 14 juin.
C'est un peu une spécialité, enfin une première là cette année. Il y avait une envie des groupes de jouer plus d'une fois. Donc on a essayé de s'associer à d'autres lieux, d'autres structures culturelles ou d'autres lieux extérieurs type la prison de Vezin. Pour proposer une représentation supplémentaire. Donc il y a 4-5 groupes là cette année qui auront la possibilité de jouer une représentation supplémentaire dans un autre lieu que La Paillette, après leur première représentation à La Paillette.
Sans leurs chaussures à scratch, assis sur le paradis d'une marelle, qu'ils sont les seuls à atteindre l'érectus planté dans leurs joues, aussi disproportionné que tous les gosses du quartier. Leurs initiales à la calligraphie bancale dans un cœur vient d'être découvert, gravé sur le chêne, au milieu de la cour de récré, là où le directeur mis aux fesses se déchaîne. Ça sent la corvée de plâtre dans l'écorce pour ceux qui trouvent ça drôle, mais les cancres amoureux savent la jouer fine, perchés dans les vapeurs de la colle à rustine. Non, les cancres amoureux n'ont peur de personne, même si elles en font des tonnes, scotchées au radiateur, attendent que la cloche résonne. Qui aurait cru qu'était né ce jour-là les nouveaux Bonnie and Clyde, dealers de Cléopâtre, les pantalons pleins de biches à part des à la sauvette dans leur poche revolver à confort, Butch Cassidy and the Kid ou South Butch Cassidy but with two kids, et un niveau d'anglais à couper au couteau à bourron dont ils ont une si bonne maîtrise. Ça sent les textes impigeables à recopier pour ceux qui trouvent ça drôle, mais les cancres amoureux savent la jouer fine, perchés dans les vapeurs de la colle à rustine. Non, les cancres amoureux n'ont peur de personne, même si elles en font des tonnes, scotchées au radiateur, attendent que la cloche résonne. Ils font de quoi porter aux genoux leurs chaussettes en laine. Pour les cancres amoureux, la légende commence à peine. Alors que faire pour merder à fond, tenter la grande évasion, se faire le grillage de cet alcatraz de l'éducation. Le mercure en chrome pour partout de guerre autour des matos forges sur un bitume. Le goudron est plus menacé alors de la grippe aviaire. Le porte-mine sont des fléchettes empoisonnées qui atteignent en plein cœur une discipline piétinée. Ça sent les journaux tenus, main crasseuse dans la main crasse seule, parcourant les rues. Mais les cancres amoureux savent la jouer fine, perchés dans les vapeurs de la colle à rustine. Non, les cancres amoureux n'ont peur de personne, même si elles en font des tonnes, scotchées au radiateur, attendent que la cloche résonne.
Première sélection musicale dans cette discussion qu'on a aujourd'hui dans Crème de la Crème avec Bérangère Lebacle de la compagnie Lumière d'Août, qui est intervenante sur les ateliers théâtre à la Payette, et puis Aude Chalmel du Rosier, programmatrice ado-adulte et coordinatrice des pratiques amateurs. Eh ben, c'est Bérangère qui a choisi ce morceau, pourquoi ?
C'est un petit clin d'œil à Arthur Naudin, qui est un jeune homme rennais, voilà, petit groupe assez chouette. Et nous, en fait, avec la Payette, on est aussi des artistes, donc on travaille en dehors des ateliers. Et il y a 2 ans, on a monté un labo de recherche avec donc La Morsure, Marie Parent et Christophe Le Chevillier. Et en fait, on invite des artistes à travailler comme ça, de manière informelle, sur 2 jours, sur le processus créatif. Comment est-ce que, en fait, on cherche ensemble à décortiquer un peu nos compars, nous-mêmes en expérimentation. Et Arthur Naudin nous a rejoints l'an dernier déjà. Et en plus d'être un très bon acteur, il est très très chouette chanteur, donc j'avais envie de lui faire un petit clin d'œil.
Vous pouvez trouver donc cette chanson Les Cancres Amoureux par Excelento partout sur internet, sur YouTube et sur Deezer. Merci Bérangère pour cette découverte. Alors, année olympique oblige, la thématique c'est sport à tout prix. Est-ce que c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a été un petit peu contacté pour imposer ça ?
Non, du tout. C'est effectivement la première année où on propose une thématique commune à l'ensemble des ateliers. Et donc pour cette première année, l'accueil des JO en tout cas en France, enfin la tenue des JO en France, fait qu'on s'est dit, allez, on va faire un petit clin d'œil, non seulement aux JO, mais c'est aussi par le biais du théâtre ou des autres disciplines, on s'empare de la question du sport et de la question de comment le sport aussi est un peu un reflet de notre société et embrasse toutes les complexités, je dirais, sociales et les luttes sociales. Et on a beaucoup, beaucoup de spectacles qui ont une dimension politique autour de la question du sport à tout prix.
On l'a bien entendu avec ce que nous disait Bérangère tout à l'heure, le principe d'Archimède, certes, ça parle un peu de sport, oui, un maître nageur, mais ça parle d'un autre sujet qui va plus loin, en fait, que juste l'apparence, comme ça, du sport.
Strait qui a été joué par les étudiants, pareil, en fait, aborde la question des viols correctifs.
En Afrique du Sud,
c'est ça ? En Afrique du Sud, et en fait, c'est aussi le prétexte à dévoiler des sujets plus grands, plus, en fait, de l'intime au politique. Et...
On parle de ces envolées proposées par le Théâtre de la Payette. La MJC La Payette, c'est la 42e édition. Non, je ne vous demanderai pas, vous deux, c'était comment la première ? Non, évidemment, vous n'étiez pas présente à ce moment-là. Le théâtre est fort représenté, ça n'empêche pas que d'autres disciplines aussi ont cours à la Payette, la danse notamment.
C'est ça, on a en fait la Payette, c'est à peu près 700 adhérents qui viennent pratiquer une activité toutes les semaines, et sur ces 700 adhérents, on a 400 qui font du théâtre et 200 qui font de la danse, et puis les autres on en a une 60aine en chant et une 50aine en art plastique. Mais donc du coup, effectivement, on a aussi beaucoup, beaucoup de danseurs et de danseuses à la Payette. On a d'ailleurs un week-end qui leur est consacré, le dernier week-end du festival, sous le nom Les Envolées Danses. Et donc là, c'est 200 danseurs et danseuses qui viennent fouler les planches du théâtre pour montrer au public ce qu'ils ont travaillé pendant l'année.
Si certains étudiants, étudiantes, en amateurs comme ça, vont poursuivre leur parcours jusqu'à intégrer des compagnies comme Lumière d'Août par exemple, c'est pas l'objectif principal, je m'en doute. Comment ils ressentent ça, en fait, les étudiants, étudiantes, de participer à une aventure collective comme ça ?
C'est vrai qu'on est vraiment sur la pratique en amateur. L'objectif, c'est pas on n'est pas un conservatoire. Il y a des écoles et des formations qui font ça très très bien. Nous, l'idée, c'est vraiment la pratique en amateur. Les étudiants sont là. On a beaucoup d'étudiants d'art du spectacle, mais pas que, qui viennent s'exercer, enfin travailler, s'exprimer aussi, être créatifs. Et puis après, ils prennent leur chemin d'étudiants, soit vers des filières artistiques ou pas. Et puis, parfois, on les retrouve un peu plus tard dans leur sphère professionnelle.
Vous l'avez entendu, des spectacles qui sont donnés du côté de la MJC La Payette, puis d'autres un peu plus loin, puisque les envolées seront en tournée aussi, avec notamment un des spectacles dont on parlait, le principe d'Archimède, qui sera donné au centre pénitentiaire de Vezin-le-Coquet, ce sera le 14 juin, mais il est joué à La Payette le 31 mai. Et puis vous retrouverez aussi quand même un peu de musique, hein, le 7 juillet. Alors ça, c'est une proposition de la Paillette qui intègre Transat en ville ou les Dimanches à Rennes. J'ai sur le programme le 7 juillet un concert des chants traditionnels du monde à la Péniche Spectacle.
Oui, exact. On a aussi une chorale au sein de la Paillette, donc qui est encadrée par Craig et Denise Schaeffer de la compagnie MZ China. Et donc du coup, ils font des concerts, donc il y aura 3 concerts au total du groupe. Un le 7 juillet à la Péniche Spectacle, et puis sinon, en amont, on les retrouve à la Maison Saint-Cyr, et puis à l'Entre-deux Café.
Mais vous les connaissez hein, peut-être, ces compagnies qui interviennent, parce que Bérangère, vous faites partie de Lumière d'Août, mais quelles sont les autres compagnies qui interviennent en tant que professeurs de théâtre?
Alors, je ne vais pas toutes les citer, pardon, elles sont 17. Donc,
quelques-unes en tout cas.
Quelques-unes, on retrouve donc la compagnie Lumière d'Août, la compagnie MZ China dont on parlait pour le chant. On retrouve la compagnie de Frédéric Mingan, 13-10e en nu, de Gaëtan Aimereau, le Lycanthrope Théâtre. On a la compagnie Point Sensible aussi avec Laurent Mazet, Delphine Batour avec la Zamac Compagnie. Et puis je ne vais pas tous les citer parce que sinon je risque d'en oublier dans les 17.
Bérangère, avant la représentation du 31, est-ce qu'il reste du 31 mai, hein, j'entends, est-ce qu'il reste encore quelques cours avec les étudiants et étudiantes?
Alors là, ce n'est pas des étudiants, hein, ce sont des adultes.
Ah non, attention, mais des étudiants en théâtre.
Oui,
étudiants
mais
en théâtre.
Il en est très... Bah alors, il y a un lundi qui saute, le 20. On a travaillé dimanche, toute la journée. Donc, ils ont bien bossé. Il nous reste... Là, il y a les vacances, donc il nous reste en gros 3 séances. Donc, ça va aller très vite.
Qu'est-ce qui se passe à 3 séances, à 4 semaines d'une représentation?
Alors, à 4 semaines d'une représentation, comme là, en fait, dimanche, on a fait un peu un état des lieux, filage, on sait où on en est, on sait que le spectacle tient. Maintenant, on refait ce qu'on appelle de la dentelle. Donc, lundi de la rentrée, eux, ils ont un peu des missions à prendre, revoir les textes. On s'est fait des notes avant de partir. Le lundi, on va reprendre des petits bouts, des petites choses qu'on va un peu peaufiner. Et le lundi qui nous restera, on fera un filage. Avec le temps qui nous restera, des petites notes. Et pareil, si on a le temps, on peaufine. Et ensuite, c'est la générale. Et y a là, on joue. Mais ils sont prêts et prêtes.
On imagine que c'est les moments peut-être les plus tendus, peut-être, avant la présentation. Est-ce que, Aude, on peut parler peut-être de la rentrée prochaine déjà, pour garnir les différents niveaux des ateliers de théâtre? Ça commencera en septembre. Les inscriptions, c'est à partir de quand?
Alors, les inscriptions n'ont pas encore commencé. Je suis en train de boucler le programme, pour tout vous dire. Les inscriptions pour les adhérents de cette année démarreront en juin. Et puis pour les nouveaux qui ne sont pas adhérents cette année, ça démarrera fin juin, le 29 juin, lors d'une journée d'inscription. Et puis ça court tout au long de l'été, enfin du mois de juillet, et puis à partir du mois de septembre. La rentrée sera autour du 15 septembre par là, enfin mi-septembre à peu près, comme tous les ans. Voilà, et on sera sur une nouvelle thématique qui est la fabrique du mensonge. Donc voilà, ça promet des belles surprises et des belles prises de parole.
Est-ce qu'on sera plus près du politique encore? On verra bien. En tout cas, merci.
Parce que le théâtre n'est pas mensonge constant.
Déjà, pour commencer, on va commencer par
ça. Donc c'est très ouvert. C'est super.
Mais en tout cas, vous pourrez aller participer à cette fabrique du mensonge en allant faire un tour sur le site la-paillette.net. On discutait avec Aude, qui est la coordination des pratiques amateurs, et Bérangère, qui intervient en atelier théâtre. Elle fait partie de la compagnie Lumière d'Août. Merci à vous deux. On termine en musique avec une autre sélection de Aude cette fois-ci. C'est quoi?
Alors, on est sur un groupe rennais et j'ai gentiment confié la sélection à notre service civique, Lauriane, qui termine à la fin de la semaine. Donc, c'était un petit clin d'œil de lui dire « Allez, c'est toi qui choisis ». Donc, on vous laisse découvrir ce jeune groupe rennais.
King's Mansion, Out of the Blue. Merci à vous deux.
Merci. Merci.
That it happened out of the blue. Out of the blue. carried away out of the blue.
C'est un extrait seulement d'une belle démo prometteuse pour le groupe René King's Mansion et le morceau Out of the Blue. À suivre, il sera question de cinéma avec un animateur de Canal B à qui j'ai piqué le générique d'émission et je l'ai mélangé avec un thème qu'on retrouve dans un des films fétiches du réalisateur dont il nous parlera dans quelques secondes. Tout cela est bien mystérieux, restez à l'écoute. Un autre animateur de Canal B, Jules Topoc, bonjour.
Bonjour.
Que vous retrouvez les mercredis à 23h dans Trop Beaucoup pour des musiques avec des tendances peut-être expérimentales, on dira.
On va dire ça, ouais, c'est à géométrie variable, mais ce sont des morceaux au long cours qu'on peut écouter tard dans la nuit pour rentrer ou quitter Rennes.
Les choses artistiques qui prennent du temps, toi tu aimes bien en fait, tu aimes bien passer beaucoup de temps sur un seul sujet. Tu avais pu donner quelques conférences sur Rocky, sur Mel Gibson et aussi la dernière en date c'était de Romer à Romero.
Exactement, on avait réussi à faire ça avec les copains du Cinéma est mort avec une double programmation à l'Arvor, de programmer un film de Romer et un film de Romero pour vraiment faire le grand écart de la cinéphilie et donc voilà, d'avoir une filmographie complète de Romer et de Romero et que finalement on se rend compte qu'ils ont plus de liens et d'accointances que sur le papier peut-être.
Pour avoir vu de Romer à Romero, je me dis que peut-être on les voyait difficilement les liens, mais quand même avec quelques concepts échafaudés par tes soins, comme le concept du Romérien.
Le Romérien, l'Alfa Romero, le héros qui est le capitaine de football dans tous les films de Romer et de Romero, donc avec quand même plein de liens et de clins d'œil se renvoyer puisque c'est vraiment une filmographie croisée, un film répondait à l'autre, donc on avait pu sur 40 minutes observer et regarder l'intégralité de leur filmographie qui correspond à 40 films.
Là on va parler d'un autre travail de titan que tu as entamé le 5 février dans une résidence à l'Hôtel Pasteur où là tu as décidé d'engouffrer toute la cinématographie et même le corpus de série, le corpus sériel qu'avait pu faire le réalisateur allemand. C'est né comment vraiment? Tu connaissais très bien Fassbinder et tu voulais le faire partager ou tu connaissais pas du tout et t'as eu justement envie de creuser?
Alors je connaissais un tout petit peu vraiment quand on commence à se plonger un peu dans les affres de la cinéphilie, d'ouvrir un peu les bouquins et on se rend compte très vite que ce nom-là apparaît régulièrement aux côtés de Wim Wenders et de Werner Herzog dans le nouveau cinéma allemand, un cinéma qui a été initié vraiment à la fin des années 60. Et en fait, une fois qu'on se lance en ouvrant le dictionnaire, on voit un pavé énorme d'œuvres qui est compact en 13 ans. Il y a 37 films, 3 courts-métrages, 3 séries de 21 épisodes, mais à chaque fois, il faisait pas des épisodes à la Seinfeld, il faisait des épisodes d'une heure et demie, de deux heures. 18 pièces de théâtre, dont 17 qu'il a mis en scène et 7 qu'il a écrit, en sachant que le monsieur écrivait tous ses scénarios, jouait dans ses films, participait quasiment à l'intégralité du montage. Donc voilà, quand on commence à se pencher dans une filmographie aussi intense, j'avais pas forcément vu énormément de ses œuvres, mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui était hyper mélodramatique et hyper poignant. Et donc voilà, l'intérêt c'était de, comme un peu comme lui a pu être frénétique de travail, ben de pouvoir avoir l'opportunité d'être hôte à Pasteur pendant 3 mois et de m'engouffrer dans cette boulimie et de tout voir d'un coup.
Il y a un réalisateur français bien connu qui est passionné de Fassbender, c'est François Ozon. Peut-être qu'il y en a d'autres.
Alors Ozon, il est vraiment fasciné, et en plus, moi, Ozon, il me sort pas les trous de nez. Je pense que c'est un cinéaste ultra bourgeois, et j'avais peut-être vu que ses premiers films, ses deux premiers films vraiment au tout début des années 2000. Voilà, je savais qu'il travaillait régulièrement autour de la figure Fassbinderienne, et donc après avoir vu tous les films de Fassbinder et les séries, voilà, j'avais une petite liste de documentaires, de reportages, d'interviews de ses collaborateurs, et aussi le petit segment voilà, de films que François Ozon a pu réaliser. Là, c'est vraiment Peter Van Kant, le dernier, et il avait fait Goutte d'eau sur pierre brûlante. Et donc sur un scénario qu'il n'avait pas pu réaliser Fassbinder, donc voilà, j'ai quand même vu des Ozon dans mon petit séjour également.
Bon, ça nous éloigne pas trop, mais on va plutôt revenir à Fassbinder pour le coup, une filmographie donc fulgurante, est-ce que tu précises, 13 ans seulement.
13 ans et 6 mois, ça démarre en 69 et ça se termine en juin 82 où il a donné toutes ses forces et c'est comme si il avait épuisé ses batteries et il ne s'est pas réveillé au petit matin du 10 juin.
Mais il a commencé par le théâtre avant
ça ? Par le théâtre, en 66-67, il arrive à Munich et il s'inscrit un petit peu et en fait il rentre dans une troupe de théâtre qui s'appelle l'Antithéâtre, enfin l'Action Théâtre au début, puis l'Antithéâtre où il arrive et il vampirise complètement toute la compagnie, et c'est là qu'il embarque très vite toute cette troupe d'acteurs, d'actrices qui de leur côté aussi vont répéter encore et encore un schéma de frénésie avec Fassbinder. Ça monte des fois en 70 à 7 films d'affilée dans la même année avec toujours les mêmes troupes d'acteurs et d'actrices. Voilà, l'exemple le plus flagrant c'est Anna Chigoula qui a aussi peut-être une des rares à avoir une carrière un petit peu en dehors du sérail de Fassbinder, mais qui apparaît par exemple dans 19 de ses films. Donc voilà, l'idée c'est qu'il y a vraiment un phénomène de troupe et d'amour-haine entre lui et ses collaborateurs, que ce soit du côté devant la caméra et derrière la caméra, puisque d'après tous les écrits et tous les dires, et dès qu'on s'enfonce un petit peu dans sa biographie, on se rend compte qu'il était complètement odieux, le bonhomme.
On voyait dans les conférences précédentes la volonté aussi de faire un petit peu acte presque universitaire en fait, hein, mais d'un autre côté l'envie de faire rire aussi. Est-ce que chez Fassbinder, il y a ça aussi ?
Alors, dans les films de Fassbinder, ça
peut-être
ne rigole
pas
jamais. J'ai essayé de compter, de mettre une petite barre et une petite croix à chaque fois que ça ricanait ou ça racontait des blagues. Donc là, ça n'existe pas, le fait humoristique dans l'œuvre de Fassbinder. Par contre, quand on se plonge aussi dans sa vie privée, il n'y a rien de rigolo. C'est vraiment... et là, ce sera aussi l'occasion d'aborder un point là-dessus. Donc, normalement, la conférence, sans trop la dévoiler, va se dérouler en 3 parties où on va pouvoir un peu explorer le personnage Fassbinderien, un peu sur ses coutures cinéphiliques au niveau de ben justement cette frénésie et cette ultra-production, mais on va un peu voir les côtés popotins et dessous du spectacle à Munich, parce que des fois il y a des choses qui sont pas très jolies, mais on va essayer de transformer ça sous un regard, on va dire 2024.
Alors, quand on ne connaît pas du tout Fassbinder, ce qui est mon cas, j'ai jamais vu un seul film de Fassbinder, j'ai même pas vu de film d'Ozon adapté, de film qu'il n'aura pas fait, par exemple. Toi, tu le présentes comment ? À part, oui, c'est un cinéaste qui est plutôt dans le côté dramatique. Hein.
Dramatique et mélodramatique. Il a vraiment été inspiré par un cinéaste allemand qui avait émigré aux États-Unis, qui s'appelle Douglas Sirk, et qui, lui, est le King des années 50 du mélodrame avec des grandes fresques qui à chaque fois amènent des personnages à être confrontés au poids de la société et de se dire c'est un peu encore et toujours le mythe de Roméo et Juliette, on dit on s'aime mais entre nous c'est pas possible parce qu'il y a un rapport à chaque fois de domination. Donc voilà, sur toute sa filmographie et sur quasiment sur 37 films, il y a vraiment toujours cette figure de rapport aux uns et aux autres qui ramène toujours un rapport de domination, soit entre le bourgeois et le prolo, soit entre un homme et une femme, entre une femme et une femme, entre un homme et un homme. Il y a vraiment toujours cette relation destructrice qui était aussi à l'image de ces tournages et d'être un peu dans la manipulation et dans l'écrasement des individus. Donc on n'en sort jamais heureux, ça c'est pour faire un peu le spoiler de toute sa filmographie. Il y a rarement de happy end. On verbalise, en tout cas ça c'est pour moi l'objectif ultime, c'est que dès qu'il y a une verbalisation de dire oh non, ne fais pas ça, ne lui sers pas pas la main, ne le regarde pas. C'est vraiment le côté effet guignol de dire regarde derrière toi, non, 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 il y a quelqu'un. Et donc, ça, c'est à chaque fois un peu l'objectif ultime dans un Fassbinder, c'est de se dire à quel moment on va souffrir avec les personnages et de se dire mais ne rentrez pas dans cette histoire-là. Donc, vraiment, ça, c'est à chaque fois, ça transpire sur sa filmographie complète.
Dans la présentation de cette résidence à l'Hôtel Pasteur que tu as entamé donc le 5 février, qui se termine cette semaine dans la chambre 236, il était précisé que la conférence suivrait un axe alambiqué à définir. Donc là, tu l'as défini toi-même, j'imagine. Le temps se partageait comment entre visionnage et définition de cet axe?
Ouais, alors ouais, comparé à Romer et Romero, où j'avais aussi la chance d'être hôte à Pasteur, où là j'avais eu 3 semaines pour pouvoir voir l'intégralité, donc j'avais peut-être pas eu le temps de tout voir en un seul coup, mais j'avais en tout cas l'axe de la connerie ou l'axe alambiqué sur voilà ce lien caché entre les filmographies de Romer et Romero. Là, en arrivant sur Fassbinder, j'avais pas encore l'axe, donc je me suis dit j'ai vu tous les films en un mois. 30 jours. Je me suis donné 15 jours pour regarder tous les documentaires, les reportages, les interviews que j'avais pu un peu glaner, et puis les bouquins que j'avais aussi glanés dans ta gauche pour pouvoir me prendre à bras le corps le cinéaste et son travail, et vraiment un peu voir l'envers du décor et comment il fonctionnait et sa méthode de travail. Et ensuite, c'était essayer de définir comment j'allais pouvoir restituer ça vis-à-vis d'un public, et surtout ne pas avoir le côté, parce que moi je suis pas du tout universitaire, mais c'était vraiment aussi pour pouvoir avoir une espèce de vulgarisation et d'envoyer le maximum d'infos sur et cette frénésie et cette production ultime et de voir un peu l'envers du décor. Donc voilà, l'idée c'est de faire un peu le bilan et les bilans de l'association Fassbinder.
On fait une courte pause musicale avec un titre que je t'ai demandé de nous faire découvrir. Pour certains, ça va être une découverte. Tu as fait des cauchemars, des rêves autour de Fassbinder.
Comme vraiment, c'était comme tu m'as un peu pris au dépourvu. Là, il a fallu que je trouve un morceau et je me suis dit vite. Alors, un morceau allemand, années 80, il fallait vite rebondir et pas forcément être non plus trop dans trop beaucoup. Mais il y a quand même un petit tube de 1982 de Fräulein Menke qui chante Traumboy, ça veut dire l'homme de ses rêves. Et voilà, j'ai tissé le lien en me disant que quand même en bouffant 2 à 3 Fassbinder par jour pendant un mois, il était aussi présent quand je sortais de l'Hôtel Pasteur. Il était un peu fantôme en permanence. Donc voilà, il a un peu des fois hanté mes rêves et quelquefois de plus en plus mes cauchemars.
Wann wirst du mal?
Mind Menke et Traumboy. Vous entendrez la fin du morceau un peu plus tard, après la fin de la discussion avec Jules Topog, dont je vous rappelle qu'il proposera cette conférence ce jeudi 25 avril. Ça sera à la chambre 236. C'est là que ça se passe ?
Alors,
c'est là que tu as été en résidence.
C'est là que j'étais en résidence, mais ça va se passer au premier étage. Il faut encore qu'on voit avec l'équipe de la conciergerie qui coordonne le lieu pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions possibles les gens qui vont pouvoir assister à cette restitution.
Donc c'est tout Fassbinder jeudi à 18h30. Des cauchemars peut-être, des rêves, je ne sais pas, autour de la cinématographie et puis des séries qu'il a pu réaliser. Le titre là était de 1982, il est mort en 1982. Son cinéma, il est peut-être pas si connu hors des cercles cinéphiles. Tu nous as parlé un petit peu de la thématique sous-jacente assez régulièrement, toujours très très sombre, très mélodramatique. Est-ce que tu lui voit une descendance aujourd'hui à Fassbinder? Est-ce que tu vas aborder ça? Peut-être pas, mais dans le cinéma actuel, tu vois des gens qui peut-être ont vu les films et s'en sont un peu inspirés?
Souvent et régulièrement, dans l'inspiration encore plus forte que François Ozon, il y a Todd Haynes qui multiplie avec Far From Heaven, ça commence à remonter à 2005-2006, je crois même plus avant. L'esthétique était carrément aussi vraiment copiée à Douglas Sirk et dans la foulée Fassbinder. Mais vraiment l'inspiration fassbinderienne, on va dire, elle est hyper forte chez Todd Haynes avec Carol, qui a pu entrer en résonance avec un film de Fassbinder qui s'appelle Les larmes amères de Petra Van Kant, avec encore un rapport de classe qui est assez fort et avec encore une esthétique très puissante, avec des rôles de femmes hyper forts, parce que Fassbinder, malgré sa furie de tournage et d'excès vis-à-vis des gens, fait tourner énormément de femmes et de rôles de femmes très forts. Donc voilà, Todd Haynes, je pense qu'en ce moment, avec aussi May December qui est sorti il y a peu de temps, où on a vu une super confrontation entre Julianne Moore et Natalie Portman, encore voilà deux portraits de femmes de deux générations différentes, et ça peut entrer en résonance avec le cinéma de Fassbinder.
On comprend bien donc à écouter là, ceux qui ont aimé partir dans des éclats de rire à la conférence de Romer à Romero, il y en aura moins cette fois-ci, ou tu vas quand même,
non,
toi, t'es forcé
vais,
de...
En tout cas, c'est un one-shot, c'est l'idée de faire aussi un premier jet pour pouvoir un petit peu faire un crash test à l'Hôtel Pasteur, aussi en lien au fait que j'ai passé 3 mois là-bas et que je trouve important de pouvoir aussi faire vivre Fassbinder dans les murs de Pasteur. Mais l'idée, après aussi, c'est pas uniquement de faire un one-shot, de voir un peu les réactions, de voir si ça fonctionne et si le côté le décalage va marcher vis-à-vis des gens. L'idée ultime, c'est quand même chouette de pouvoir à chaque fois tomber sur des gens qui ne savent pas du tout qui est Fassbinder et qui ne savent pas du tout à quoi s'attendre quand ils vont peut-être m'écouter. Donc voilà, c'est en tout cas l'idée première, c'est de tomber sur des gens qui sont tout frais, tout bébés dans Fassbinder et dans ma manière de parler des films. Donc là, peut-être comparer et sans faire trop parler d'avant-première, mais il y aura peut-être moins. Romer et Romero étaient vachement basés sur le dessin et les portraits des acteurs et des actrices qui ont un peu fourni la filmographie de Romer et de Romero. Là, il y aura peut-être moins de dessins, mais il y aura à côté peut-être d'autres surprises, d'autres nouveautés pour un peu aussi bousculer ma pratique de conférence.
Est-ce que tu as été, toi, justement, bousculé par des spectateurs aux conférences précédentes qui s'attendaient vraiment à un travail d'universitaire, à une conférence où on aurait peut-être fait une coquille et qu'en fait, c'était pas du tout une conférence, mais que on s'était trompé. Et en fait, eux-mêmes étaient un peu déçus, surpris, étonnés.
Il y a eu une belle rencontre à l'Arvor quand j'ai présenté justement la double programmation avec les copains du Cinéma est mort, Antonin et Étienne, où j'ai présenté la conférence entre deux projections. Et donc, Étienne et Antonin du Cinéma est mort avaient eu la brillante idée de faire un blind test avec des extraits de films avant la conférence. Et donc, on s'est vite rendu compte qu'il y avait un très jeune cinéphile qui avait peut-être la vingtaine et qui était, on s'est rendu compte, hyper calé en Romer, et au bout de 2 secondes de dialogue romérien, il avait la réponse. Il avait été biberonné par sa maman, il nous a dit après ça, par toute la filmographie de Romer. Donc lui, il était hyper au fait, et quand j'ai commencé la conférence, je l'ai pu l'observer sortir un petit carnet et commencer à prendre des notes. Et je crois que les copains autour se sont vite dit je crois que tu n'as pas trop vu et écouté ce qui va se passer. Mais en tout cas, très vite, il a abandonné son crayon et j'espère qu'il s'est un peu plus laissé aller à la connerie.
ces 3 mois passés dans la chambre 236 de l'hôtel Pasteur, vous en verrez le résultat, un résultat, hein, parce que oui, c'est un travail en cours, c'est une restitution de fin de résidence. Tu vas peut-être transformer ça après, on verra bien, mais tu es déjà sur d'autres projets de conférences après celle-ci, ou pour l'instant tu restes bloqué sur tout Fassbinder?
Non, pour l'instant, une fois que ça va être achevé et que les films de toute façon sont vus, j'ai tendance à me dire que j'ai envie de m'attacher à d'autres filmographies complètes. Donc en cours, avant de me lancer dans Fassbinder, j'avais un petit peu aussi envoyé l'info quand on avait fait la conférence Romero. J'ai un Jackie Chan sous la pédale. Là, c'était aussi un peu plus compliqué à glaner l'intégralité de sa filmographie, mais je crois que j'avais réussi à en avoir 93-94, dont plus de 70 où il a le rôle principal. Donc ça, en tout cas, c'est vu, c'est noté, c'est prise de notes. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir essayer de trouver aussi une forme de restitution pour pouvoir parler de Jackie Chan. Et là, je sais très bien que je vais déjà parler de sa filmographie entre 78 et 93. En gros, c'est Drunken Master 1 jusqu'à Drunken Master 2. Donc là où il a vraiment un de ses rôles principaux à Hong Kong en 77 et la fin avec son dernier film à Hong Kong avant de s'exporter et faire le satané Rush Hour.
Donc tu sais si ça se passera à Pasteur ou si tu seras dans un autre endroit?
Non, là je vais le faire ça peut-être dans un autre endroit où à domicile il va falloir trouver un autre axe autre que peut-être le dessin et ce que je propose pour Fassbinder. Donc voilà, une autre proposition qui est en cours d'ébullition dans mon petit cerveau.
Vous avez rendez-vous en tout cas avec tout Fassbinder et Jules Topoc, ou l'inverse, enfin dans les deux sens ça marche, de toute façon ce jeudi 25 avril à 18h30 au premier étage de l'hôtel Pasteur. Eh ben nous, on retourne avec le garçon de ses rêves et Fraulein Menke. Merci,
merci,
Jules Topoc.
Merci à toi.
Et ce mercredi, la veille donc, de cette conférence, qu'est-ce qu'on entendra dans Trop Beaucoup?
On va écouter Catherine Ribeiro, qui, avec le groupe Alp, pour une fois, c'est une des premières fois où je mets un peu de prog rock, mais en tout cas, on m'a initié à l'écoute de Catherine Ribeiro, et c'est une sacrée apparition quand elle commence à avoir ses incantations. Donc, il y a un gros morceau de 15 minutes qui est succulent, qui s'appelle Paix, sur justement leur première collaboration. Il y a un lien avec le cinéma, je crois qu'il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Moulet, qui était dans le groupe Alp et qui faisait ses propres instruments. Donc, en tout cas, voilà, ça va expérimenter avec des gros orgues et Catherine qui est derrière. Un groupe qui s'appelle Vas, qui est maintenant installé à Berlin, avec des ça c'est plutôt de l'ambiante. Et en introduction, j'ai déjà oublié ce que j'ai mis alors que ça date de tout à l'heure, mais en tout cas c'est une alternance 10 minutes 7 minutes, 10 minutes, 7 minutes, mais voilà, c'est surtout Catherine Ribeiro qui m'a bien tapé dans l'oreille ces derniers temps.
À retrouver donc mercredi soir à 23h sur Canal B, et je mettrai bien sûr le lien vers cette résidence à Pasteur pour que vous ne ratiez pas cette conférence, surtout Fassbinder. Merci beaucoup.
Merci.
C'était Traumboy par Fraulein Menke, choisi par notre ami Jules Topoc, qui vous propose tout Fassbinder autour de Rainer Werner Fassbinder, donc ce jeudi 25 avril au premier étage de l'hhôtel Pasteur. On termine avec ce Traumboy et on se retrouve mercredi pour une nouvelle émission Crème de la Crème. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.